Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Cube Radio.
Personnes âgées. Il a accroché des fils électriques avec sa nacelle et le mât de celle-ci a pris feu. Vous le voyez sur les images. Donc, le travailleur qui est demeuré coincé pendant un bon moment dans sa nacelle, il a été secouru par des pompiers du service de sécurité incendie de Chicoutimi. Ensuite, il a été pris en charge par une équipe de paramédics. Il a été transporté au centre hospitalier également. Donc, la situation qui a provoqué plusieurs pannes d'électricité au centre-ville de Chicoutimi. Vous le voyez, il y a toujours des équipes d'Hydro-Québec qui sont sur place actuellement pour rétablir la situation. On avait également tout à l'heure un inspecteur de la CNESST là, qui a été dépêché sur place pour faire une enquête sur ce qui s'est produit. Il y a également plusieurs policiers là, aux différents endroits du centre-ville qui s'affairent actuellement là, à s'assurer de la bonne fluidité de la circulation parce que ça a également causé des problèmes de circulation. Donc voilà, opération assez délicate qui s'est produite sur le coup de 11 heures ce matin, mais le travailleur devrait s'en tirer quand même assez bien.
C'est la bonne nouvelle. Merci.
Pour bien des gens, ça fait 2 mois et demi que les canettes et aussi les bouteilles consignées s'accumulent à la maison quand elles ne sont pas carrément jetées à la poubelle. Mais cette situation tire à sa fin. Andy, on pourra bientôt rapporter ces contenants dans les épiceries, dans les dépanneurs, entre autres.
Et d'ailleurs, pour vous en parler en direct devant une épicerie de Montréal, Pierre, je vous montre tout de suite des images en direct parce que si, comme moi, vous avez beaucoup de bouteilles, des canettes à la maison, bien, ce sera le retour de ce qu'on appelle, en bon québécois, les fameuses gobeuses, hein, les broyeurs de canettes, de bouteilles de plastique. Ici, par exemple, chez Métro, il y a une affiche où on peut y lire « Fermeture temporaire ». Cette affiche-là va disparaître ici, sur l'île de Montréal, le 22 juin exactement. 2 dates à retenir. On vous a préparé un tableau. Vous voyez ces 2 dates que vous devez retenir à la maison. Le 8 juin prochain, tous les détaillants du Québec, hormis ceux de l'île de Montréal, devront recommencer à reprendre tous les contenants consignés en magasin. Et la reprise de ces contenants sur l'île de Montréal, eh bien, ce sera effectif 2 semaines plus tard, le 22 juin exactement. Cela dit, c'est important de rappeler un peu ce qui s'est passé dans les dernières semaines. Le 11 mai, il y a eu entente entre Recyc-Québec, les détaillants, les brasseurs, pour organiser ce que l'on appelle des corvées. Donc, les gens pouvaient se déplacer dans des stationnements extérieurs, vu les circonstances exceptionnelles que l'on connaît avec la COVID-19. On privilégiait de faire ça à l'extérieur chez certains détaillants, mais ça n'a pas eu l'effet escompté. Et les brasseurs, ils étaient nombreux à craindre pour un ralentissement de leur production. Alors, ça fait un peu pencher, disons, la balance dans la prise de décision du gouvernement. Bien sûr, on devait avoir l'autorisation et le feu vert de la santé publique, mais également les conséquences, point de vue économique. J'en ai parlé avec le ministre de l'Environnement, Benoît Charrette. Ce sera suivi d'une réaction du Conseil canadien du commerce de détail.
C'est toute la chaîne d'approvisionnement et de distribution de nos brasseurs qui étaient en péril aussi avec l'absence de récupération de consignes de façon efficace. Donc, on ne parle pas de pression indue, mais oui, ça penche, ça nous a fait réfléchir et ça fait pencher la balance.
Fait que déjà, tu sais, quand on va se retrouver à gérer une file d'attente dans une entrée de supermarché, puis qu'on va voir quelqu'un qui est installé à la gobeuse, puis qui va passer un sac de 200 canettes ou de 200 bouteilles, ben il va bloquer la circulation parce que si je fais le tour 2 mètres autour de lui, il n'y a plus personne qui circule.
Alors, ça suscite beaucoup de réactions, des positives. Il y en a plusieurs qui seront contents de rapporter leurs contenants consignés ici dans les différents détaillants, mais également des réactions quand même négatives. Là, ça va demander toute une logistique et d'ailleurs, on en aura à vous présenter cet après-midi sur les ondes de LCN.
On va aussi s'habituer à ça, j'imagine. Merci, Andy.
Pour la plupart des gens qui touchent la prestation canadienne d'urgence, le dernier chèque est prévu dans un peu plus d'un mois et on ignore toujours si ce programme sera prolongé, Pierre-Olivier. Ça génère beaucoup d'anxiété.
Oui, tout à fait, Pierre, parce qu'il y a des gens qui sont admissibles à l'assurance-emploi dite traditionnelle qui vont pouvoir faire la transition de la prestation canadienne d'urgence aux prestations habituelles normales. Mais qu'en est-il pour les travailleurs autonomes, les contractuels, les travailleurs à temps partiel, essentiels, ceux qui sont immunosupprimés, qui ne peuvent pas nécessairement retourner au travail, il y a un point d'interrogation qui génère de l'anxiété. D'ailleurs, une étude fort intéressante publiée par Raymond Chabot ce matin qui nous donne des indicateurs. D'abord, 1 million de Québécois à l'heure actuelle touchent la prestation canadienne d'urgence. C'est à peu près un adulte sur 6 au Québec qui compte sur ce 2 000 $ par mois pendant 4 mois pour subvenir à ses besoins. Le problème, c'est qu'il y a une forte proportion, 33 % qui n'ont pas fait de réserve pour payer l'impôt qui sera prévu. Parce que cette prestation, il faut le garder en tête, elle est imposable. 25 % des prestataires actuellement n'ont pas de coussin financier pour affronter les prochains mois où il y a énormément d'incertitudes économiques dans certains secteurs. Pensons au secteur des spectacles, du divertissement, des arts, de la culture, etc. 65 % des jeunes des moins de 35 ans sont très inquiets avec la fin de la prestation canadienne d'urgence. Et on va voir ce que les gouvernements vont faire, Pierre. Cet après-midi, j'ai une entrevue prévue avec le ministre du Travail, Jean Boulay, qui veut proposer aux Québécois des formations et peut-être une réorientation professionnelle, qu'elle soit temporaire ou permanente, afin d'affronter les prochains mois, parce que la pandémie est loin d'être terminée. Je vous parle d'un autre indicateur intéressant de ce sondage rapidement, Pierre. Ce sont les reports de paiement sur différents prêts, prêts hypothécaires, prêts de carte de crédit. Selon Raymond Chabot, il y a plus de 650 000 Québécois qui ont demandé de tels reports depuis le début de la pandémie. C'est énorme.
Et un peu plus tard, vous allez revenir, Pierre-Olivier, sur les rouvertures de campings, de chalets. Ça suscite beaucoup de questions.
Ah, j'ai reçu des centaines et des centaines de courriels, des gens qui se demandent qu'est-ce que j'ai le droit de faire, qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire. Alors, sous le coup de 12h45 aujourd'hui, on va répondre à toutes vos questions. Et je sais qu'elles sont très nombreuses parce que tout le monde planifie ou essaie du moins de planifier ses vacances.
Si on peut d'abord joindre la CEPAC. Hein?
Ah, bonne chance, Pierre. Si vous avez une heure de temps libre, là, essayez.
Merci.
Au revoir.
Ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie.
COVID-19.
Alors, on remercie nos collègues de TVA Nouvelle, LCN. Ça a l'air que c'est compliqué de rejoindre les gens de la CEPAC. Mais rejoindre Vincent Dessureau, ça, c'est facile parce qu'il est en ce moment dans nos studios. Bonjour,
mais,
Vincent.
Bonjour. Mais les sites Internet fonctionnent pour les réservations aussi. Mais il semble que pour la CEPAC, il faut être très flexible dans les dates. Vous n'aurez pas le beau chalet un samedi de juillet au bord du lac.
De toute façon, rien ne sera exactement comme on l'avait prévu et rien ne sera exactement comme c'était, mettons, à l'été 2019. Il faut baisser nos attentes et faire des deuils. Chaque jour, on fait des deuils de ci et de ça.
C'est vrai.
Fait que on est rendu comme habitué, finalement. Mais imagine quand même, un feu de camp, je sais pas, toutes sortes de choses que tu prends pour acquis quand tu fais du camping. Ben, tout doit être pensé en termes de se protéger soi, protéger les autres. Tu peux pas louer un chalet si c'est pas des gens qui résident de toute façon sous le même toit. C'est ce que nous a dit Caroline Proulx, la ministre du Tourisme, hier. Fait que plein de choses qu'on faisait normalement. Tu dis à des chums, cet été, on loue un chalet, ou alors nous, on loue un chalet, puis venez nous rendre visite. Ben, tout ça, c'est pas vraiment possible.
Il y a des gens seuls aussi qui disent, moi, je partais avec des amis, j'irai pas tout seul au chalet ou tout seul dans une tente. Et que ça puisse devenir plus difficile.
En tout cas, alors plus rien ne sera comme avant, pour l'instant en tout cas, jusqu'à temps qu'on trouve un vaccin. Bon, écoute, on commence peut-être avec ces 74 nouveaux décès au Québec.
Il faut rappeler que le bilan maintenant, le gouvernement le publie là, vers un peu passé 11 heures et n'est plus dans le point de presse plus quotidien, là, mais presque quotidien du premier ministre. Donc, 74 nouveaux décès aujourd'hui, un bilan quand même assez lourd. Là. Ça porte le total à 4302 morts dans la province. Là où les nouvelles sont meilleures, par contre, c'est les cas, toujours à 563 nouveaux cas, alors qu'on est à presque 15 000 prélèvements. Alors, des tests, on en fait beaucoup, mais le nombre de cas, alors qu'on déconfine et qu'on fait plus de tests, quotidien n'augmente pas, ou même est plutôt à la baisse. Ce qui est le plus à la baisse aujourd'hui, c'est les hospitalisations, ce qui est une très bonne nouvelle. Moins 47 hospitalisations, donc un total de 1331. Il faut rappeler que quelques jours à peine, ou peut-être 2 semaines, on était à 1800, presque 2000 personnes hospitalisées. Alors, Alors, c'est un soulagement. Là. On enlève beaucoup de pression au réseau présentement. C'est une bonne nouvelle. 6 personnes de moins aussi aux soins intensifs. Alors, somme toute, les nouvelles, à part les décès, il faut le rappeler, c'est des nouvelles toujours tragiques, mais dans ce qui est surveillé par la santé publique pour la réouverture, les données sont pas si mal présentement pour le Québec.
Et je profite du fait qu'on parle justement de chiffres et de statistiques pour vous dire qu'un petit peu plus tard dans l'émission, peut-être vers 12h20, on va parler avec Patrick Guéry. Il est analyste en politique publique et lui remet en cause certains des chiffres du gouvernement, comme par exemple quand François Legault tout récemment disait, bon, moi, si on se compare avec des grandes villes américaines, eux sont ou comme nous ou pire. Ben lui, il dit, ben c'est pas exactement vrai, pour ne pas dire que c'est faux. Donc un petit peu plus tard dans l'émission, si les chiffres vous intéressent, on va parler de tout ça. Écoute, hier, c'était vraiment une journée record au Québec en termes de chaleur et j'étais chez nous où on crevait de chaud parce que je ferais pleurer personne, mais la clim ne marchait pas. Et je me disais, les gens qui sont pris dans les CHSLD avec une température à l'intérieur qui frôlait le 32-33 degrés, c'est insoutenable.
Oui, et c'était vraiment des questions, une journée pénible hier et avant-hier. Aujourd'hui encore, quoique la température est un peu, est un peu moins chaude. On parle encore qu'on atteindra avec le facteur humidex à Montréal plus de 35 degrés. Mais hier, c'est plus de 40. Même quand tu l'as dit, on a fracassé des records dans la métropole, mais aussi un peu partout au Québec. Et la situation qui était pratiquement insoutenable, malheureusement, dans plusieurs CHSLD de la région de Montréal. Et d'ailleurs aussi, où on n'est pas équipé pour faire face à ce genre de chaleur. On pouvait lire là, dans les dernières heures des préposés aux bénéficiaires qui parlaient de situations vraiment difficiles, de patients qui pleuraient même à cause de la chaleur et l'équipement, là, les masques, les blouses qui doivent être portés par le personnel aussi, au point où certains songeaient à porter leur propre ventilateur au travail parce qu'on ne les équipe pas assez. Plusieurs qui ont pris des congés aussi, alors ça nuit évidemment
au bon fonctionnement,
étant donné qu'il y a de l'absentéisme. Alors ceux qui restent doivent encore faire davantage d'heures. Imagine 12 heures à cette chaleur-là. C'est vraiment insupportable. Alors, une situation qui est dénoncée par plusieurs, surtout que on n'est même pas encore en juin. Il y en aura d'autres périodes de chaleur, peut-être encore plus longues au mois de juillet, au mois d'août. Alors, il faudra assurément améliorer les choses. C'est ce que le gouvernement souhaite, mais pour cette vague-là, ben, malheureusement, c'est trop peu trop tard à bien des endroits.
Et je tiens quand même à rappeler que chaque année au Québec, il y a des canicules. C'est une des caractéristiques du Québec. Tu sais, on en parlait hier. C'est l'endroit au monde où il y a la plus grande amplitude de température. Plus 40, moins 40 l'hiver, plus 40 l'été. On vient pas tout d'un coup de découvrir qu'au Québec, il y a des vagues de grande chaleur. Et je le répète, en 2018, 90 personnes sont mortes de la chaleur au Québec. Qu'est-ce qu'on a fait pour équiper? Et je voyais passer, je pense que c'est un article dans le journal, en tout cas, peu importe, un CHSLD qui a été construit à grands frais dans je ne sais trop quelle région ici au Québec. Au coût de 25 millions de dollars, on a construit un CHSLD. Ils n'ont pas mis la climatisation. Mais à quoi les gens pensent? C'est comme, c'est allô? Je veux dire, c'est aussi ridicule que de se dire qu'on ne mettra pas le chauffage avec les hivers qu'on connaît.
Oui, surtout pour des personnes vulnérables.
C'est sûr que c'est pas la même durée. On s'entend que l'hiver, ça dure 6 mois.
Oui.
Puis les grandes chaleurs, moins. Mais c'est le même principe, c'est que c'est la base. On le sait, c'est pas comme une nouvelle. Ah, oh, tout d'un coup, il y a une canicule au Québec, puis il y en a jamais eu, puis on s'y attend pas. C'est vraiment effarant qu'on fasse des choses.
C'est pas une question de simple confort, mais de survie des patients dans ces cas-là. D'ailleurs, des préposés qui, on les voyait, là, tordaient carrément leurs vêtements et ça dégoûtait là, au sol. Donc, situation vraiment pénible. Heureusement, ça achève. C'est ce qu'il y a de positif. On aurait des températures plus fraîches dans les prochains jours.
Mais la question reste entière quand même pour le reste de l'été. Et comment allons-nous pouvoir équiper tous les CHSLD ou les résidences pour aînés avec ça? Ou alors, ils le font, mais ils te font payer pour.
Oui, payer bon, un extra
ben
pour survivre
ben non,
à la chaleur.
C'est évident.
Ouais.
Fait que quand tu as les moyens, c'est correct, mais quand tu n'as pas les moyens, donc on crée encore une fois deux classes de citoyens. Parlant justement de CHSLD, Marguerite Blais, donc, qui a fait une conférence de presse, je pense, ce matin.
Oui.
Et qui dit, bon, ben, parce que c'est l'objectif que s'est fixé François Legault, que d'ici le mois de septembre, qu'on ait formé 10 000 personnes. D'ailleurs, je vais en parler un petit peu plus tard avec le président, directeur général du Regroupement québécois des résidences pour aînés, parce qu'eux, ils disent, ben nous, on est au privé, on paye notre monde 14 $ de l'heure, vous, vous allez les payer 26 $ de l'heure, ben ils vont tous quitter pour aller chez vous.
Oui, il y a une inquiétude par rapport à ça, justement, dans l'industrie, là, au niveau des de résidences privées pour aînés, qui dit, ben nous, on pourra pas,
on peut pas accoter
ça là, jusqu'à 26 $ de l'heure, alors qu'on est très loin de ça dans le réseau privé. Alors, Marguerite Blais, la ministre responsable des aînés, a été questionnée là-dessus ce matin. D'ailleurs, pour ce qui est des salaires, elle envisage, moi, c'est dit qu'on envisage au niveau du gouvernement, on examine le fait d'imposer un plancher salarial pour le secteur privé. Donc, on est en contact avec les différents syndicats. C'est le ministre du Travail, Jean Boulet, qui s'en occupe avec des organismes comme les CHSLD privés, Regroupement québécois des résidences pour aînés privés aussi, pour essayer de trouver une façon de faire. Et à la question, est-ce qu'on croit vraiment qu'on pourra trouver 10 000 personnes intéressées à suivre cette formation payée de 3 mois cet été pour être opérationnelle à l'automne? Est-ce que c'est juste illusoire de croire qu'on aura autant de gens intéressés? Madame Blais indique qu'on doit avoir de l'ambition et de grands rêves, là, ce qu'elle a dit. Mais selon elle, entre autres, les nouvelles conditions qu'on va donner à ces gens vont attirer des intéressés. On peut écouter la ministre là-dessus.
On va offrir des postes permanents par la suite. Ça. Déjà, ça, c'est beaucoup. On va travailler sur l'organisation du travail. Il y aura un bon salaire pour les préposés aux bénéficiaires. Il y a des personnes aussi qui ont perdu leur travail à cause justement de la COVID.
Alors, intérêt possiblement pour des gens qui se retrouvent, on parlait de la PCU, se retrouvent au bout de ça, seraient peut-être intéressés à faire un changement de carrière. Elle parlait entre autres du milieu de la restauration et même... Pardon, de l'aéronautique.
L'aéronautique, oui. Alors, si vous perdez votre emploi parce que, bon, par exemple, des mises à pied massives dans des compagnies comme Air Canada, et bien, dans le domaine des restaurants, évidemment. Donc, mais en même temps, il faut comprendre que c'est pas du tout le même métier. Et puis, les gens qui sont préposés aux bénéficiaires, c'est une vocation, c'est que tu es dans l'aide. Dans ce qu'on appelle, je sais pas pourquoi, on utilise tout le temps le mot anglais, mais dans le care. Je veux dire, si ta vocation, c'est de préparer des gratins dauphinois à la truffe, je sais pas, là. Ben oui, c'est sûr, si t'as vraiment pas le choix.
Ou s'occuper d'une clientèle en restauration, c'est pas
la même chose
que ça.
C'est que ça prend 10 000 personnes qui ont le feu. C'est une vocation, c'est un métier très particulier qui demande une abnégation, un don de soi, une volonté de tu sais, quand même de rentrer dans l'intimité des gens quand tu donnes des bains, quand tu changes des couches et tout ça. Donc, ben écoute, tant mieux si on y arrive et c'est ce que je nous souhaite évidemment. Ben justement, on parlait du domaine de la restauration, une réouverture des restaurants qui sera annoncée bientôt, mais sous quelle forme, dans quelles conditions, à quelle date, comment ça va se passer? Tant de questions et si peu de réponses.
D'ailleurs, le camping rouvre, mais on se rend compte dans le fin caractère que c'est pas la normale. Loin de là, et ce sera ça dans les restaurants, mais sachez que la première phase de réouverture des restaurants sera annoncée bientôt. C'est ce que la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, a confirmé aujourd'hui à nos collègues de LCN. Donc plusieurs, en fait, la santé publique, le travail et la CNESST sur tout ce qu'il faut là, comme guide d'utiliser de façon de faire dans le milieu de la restauration. Alors, on va annoncer une réouverture graduelle de l'industrie, évidemment, et en suivant les directives de la santé publique, mais c'est quand même tout un casse-tête, entre autres, à Montréal pour les terrasses. On voyait, notre bureau d'enquête a obtenu un document de la Ville de Montréal qui explique que pour les terrasses cet été, si on peut en ouvrir, ça devrait être dans des rues qui sont piétonnes au complet. Ce qui complique, là, parce qu'imagine-toi là, des restaurants qui vont se faire dire « ben vous, votre rue n'est pas piétonne, alors pas de terrasse. D'autres à côté, c'est piéton, alors il y a une terrasse. » Tout ça, c'est dans l'objectif de garder ses distances, parce qu'on doit laisser les trottoirs larges et libres aux gens qui vont faire des files pour commerces. Alors, les terrasses devront être au centre, au milieu de la rue. Alors, évidemment, on ne peut pas faire circuler les voitures. Alors, il n'y aura pas, dit-on, de one size fits all, au dire de la Direction régionale de la santé publique. Alors, on va faire du cas par cas à Montréal, mais ce sera tout un casse-tête rouvrir ces terrasses si on le fait d'ici la fin de l'été.
Et tu dis c'est un casse-tête, c'est le mot juste, parce que je regarde, par exemple, dans la petite Italie, donc, on s'excuse pour les gens qui sont à l'extérieur de Montréal, mais dans la petite Italie, il y a une épicerie fort connue qui s'appelle Milano. Et quand la mairesse Valérie Plante a dit « Bon, ben, on va piétoniser boulevard Saint-Laurent, on va fermer boulevard Saint-Laurent dans la petite Italie pour pouvoir justement que les commerces puissent... » Bon, ben, il y a plein de gens, dont l'épicerie Milano, qui a dit « Oui, mais attends, les gens qui viennent faire l'épicerie chez nous, ils font comment, là, si on... » Donc, c'est de jongler avec les intérêts des uns et des autres. Parce qu'on se dit, de toute façon, on est pogné à Montréal cet été, donc on veut aller en vélo, OK, c'est parfait, on met des grandes pistes cyclables, mais il y a plein de gens aussi qui ont besoin de faire l'épicerie, donc on a besoin des autos. Puis là, il y a les restaurateurs qui disent, ben nous, ça fait 3 mois qu'on est fermé, on veut ouvrir, on veut une terrasse. Oui, mais tu peux pas ouvrir sur la terrasse s'il n'y a pas une rue piétonne, mais si la rue est piétonne, c'est pas le fun pour les épiceries. C'est impossible de faire plaisir à tout le monde.
C'est
là ma conclusion.
Oui, t'as raison.
Je suis rendu philosophe.
Ah, oui, hein, c'est
tu
vrai.
Vois, Joseph Facal, dans sa chronique ce matin, il dit qu'il faut profiter de la COVID-19, ça nous fait réfléchir à nous. Mais moi, je suis dans cette philosophie-là, là, je suis rendu zen.
Mais aurais-tu le goût d'aller voir un bon concert dans un ciné-parc cet été?
Ben, pourquoi pas?
Oui, tu prends tout ce qui peut être...
Oui, parce qu'ils le font en Allemagne, il y a plein d'endroits où ils le font, puis moi je pense qu'il faut mettre l'imagination au pouvoir, donc pourquoi pas?
Parce que le ministère de la Culture confirme qu'on a reçu le feu vert de la santé publique pour la tenue d'événements à ciel ouvert dans les cinéparcs. On sait que les cinéparcs, la présentation de films, mais on pourra pas nécessairement se faire uniquement cette offre-là aux clients, mais aussi toute forme de spectacle, pourvu que les spectateurs soient assis dans leur voiture. Alors on pourra avoir des spectacles de musique, des spectacles d'humour, d'art, peu importe. Alors, c'est une bonne nouvelle. Nathalie Roy qui s'est montrée très heureuse de cette nouvelle, disant la vie favorable à la santé publique fait en sorte que des initiatives créatives peuvent être mises de l'avant dans les cinéparcs, pourvu qu'elles respectent d'importantes mesures sanitaires, entre autres la distance entre les véhicules, les passagers qui doivent provenir d'une seule maisonnée, service de restauration qui est uniquement pour emporter. Alors, mais cette façon-là permettrait d'offrir certains spectacles. C'est sûr qu'il n'y a pas d'installation scénique.
Ben non, c'est ça.
D'importance dans les cinéparcs, mais on a peut-être moyen d'installer quelque chose qui permettra d'offrir certains événements là, aux gens qui pourront s'y rendre.
Oui.
Alors, à surveiller.
Mais un truc aussi auquel il faut penser, c'est, je sais pas si tu as sûrement vu ces images-là, de certains parcs aux États-Unis où on fait des cercles au sol pour indiquer aux gens pour qu'il y ait vraiment une distanciation sociale. Donc, je me dis, par exemple, dans des grands parcs comme les Plaines d'Abraham à Québec, où on fait chaque année le Festival d'été de Québec, sur le Mont-Royal à Montréal, si on faisait des grands cercles comme ça au sol, on pourrait, théoriquement, non?
Oui.
Avoir, tu sais, sur les scènes où il y a normalement le Festival d'été de Québec.
Ça ferait pas grand monde. Parce que, évidemment, c'est ton espace à toi.
Ouais, mais c'est mieux que.
Pour circuler.
Si t'en as 5 000, c'est toujours bien mieux que si t'en as pas du tout.
Oui.
Mais tu sais, en même temps.
Mais est-ce que tu mets tes billets à 500 $ rendus là pour. Parce qu'évidemment, il y a le coût à défrayer. Là.
Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? C'est impossible que tout le monde soit content.
Ça, c'est vrai.
Bon.
Ça, c'est vrai.
Alors, rien sera plus comme avant et c'est difficile de rendre tout le monde heureux. Ça, c'est les deux leçons à retenir de la COVID-19. Hé, hey, on est rendu à 22. Écoute, il est midi 22. On a complètement débordé.
Alors, merci, Sophie.
Mais c'est parce que je suis tellement enthousiaste quand je te vois. J'en perds les pédales.
C'est gentil, écoute.
Hey, merci beaucoup, Vincent Dessureau. Donc, on se retrouve après la pause. On va parler donc avec Patrick Derry de ces chiffres parfois inquiétants, parfois rassurants concernant la COVID au Québec.
Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Tous les angles. Sophie Durocher.
Elle aura toujours le dernier mot. Même si vous parlez en dernier.
Vous écoutez.
On n'est pas obligé d'être d'accord.
Comment le Québec se situe par rapport à d'autres pays, même si on est pour l'instant juste une province, comment on se situe par rapport à d'autres pays, à d'autres États dans notre réaction, dans notre combat face à la COVID-19? C'est des questions qui sont très litigieuses. Il y en a qui disent on se conduit mieux, d'autres, ben non, c'est pire ou c'est comparable. Et il y a quelqu'un qui analyse ça régulièrement sur ses médias sociaux, c'est Patrick Derry, il est analyste en politique publique et à chaque fois, il arrive disons, en regardant la situation avec le petit bout de la lorgnette, en tout cas. On peut dire ça comme ça. Patrick Derry est au bout de la ligne. Bonjour. Comment allez-vous, Patrick?
Bonjour, ça va bien, vous-même?
Très bien, merci. Alors, régulièrement, donc, je dirais quotidiennement, même plusieurs fois par jour, sur les médias sociaux, vous analysez les chiffres et très souvent, vous venez contredire d'une certaine façon soit l'opinion générale, soit précisément des données du gouvernement. Alors, pour résumer, au jour d'aujourd'hui, 28 mai, trouvez-vous qu'on se situe bien au Québec par rapport à d'autres États où on est vraiment un cancre fini puis on devrait porter le bonnet d'âne?
Bon, je n'irais pas jusqu'à dire qu'on devrait porter un bonnet d'âne, mais ça prend une bonne dose d'optimisme pour trouver des bonnes nouvelles dans la situation du Québec. Et il y a beaucoup de pays qui ont été frappés durement, mais le Québec est un des endroits dans le monde où on a été frappé le plus durement. Puis même si on est une province, ça reste comparable. C'est-à-dire qu'il y a un paquet de pays d'Europe qui ont une population de dimension comparable, qui ont des systèmes de... On a le contrôle de notre système de santé, puis on a aussi le contrôle de notre santé publique.
Ouais.
Et le bilan, malheureusement, n'est pas très flatteur. Puis même quand on compare à des provinces voisines, hein, l'Ontario a une fraction de nos morts avec une population plus élevée. La Colombie-Britannique, c'est un autre univers. Et on partage néanmoins les frontières canadiennes.
Ouais, et la Colombie-Britannique, il faut le spécifier quand même, dès qu'ils ont commencé à avoir des cas, la direction de la santé publique a dit la première chose qu'on doit faire, c'est s'assurer que dans les soins de longue durée, qu'il y a des gens dédiés et que les gens se promènent pas d'une institution à l'autre, ce qu'on n'a pas fait au Québec. Donc ça explique quand même une partie des choses. Le pays que tout le monde observe, Patrick, c'est évidemment la Suède, une population vraiment comparable à celle du Québec. Nous, on est 8,5 millions, eux, ils sont 10 millions. Comment on se compare à la Suède?
Bien, on a un bilan qui est à peu près semblable. La différence, c'est que nous, on a essayé de faire quelque chose, puis eux, ils ont essentiellement laissé les choses aller.
Ouais.
C'est un peu désolant. Et je ne suis pas en train de dire que la stratégie suédoise, c'est qui est très contestée, puis à mon avis aussi, un peu pessimiste, hein, parce qu'on a dit, on a comme agi en se disant qu'il y aurait. C'est comme s'il n'allait jamais avoir de vaccin, il n'allait jamais avoir de remède, fait qu'on. On va laisser un peu les choses aller, puis tant pis s'il y a des gens qui meurent. C'est un petit peu pessimiste. Moi, je trouvais qu'il y avait un cas quand même à faire, à trouver une façon de ralentir la propagation en espérant éventuellement... Mais c'est pas le choix de la Suède, c'est un laboratoire en temps réel. Ce qui est étonnant, c'est qu'on a un nombre de décès qui est comparable aujourd'hui. Hein. La Suède a 4200 quelques décès qui sont rapportés. Au Québec, on est à 4300. Puis nous, on s'active à essayer de faire des choses, tandis qu'eux autres, écoutez, les cinémas sont ouverts, les restaurants n'ont pas fermé,
les écoles
sont restées ouvertes pour les enfants de moins de 16 ans. Essentiellement, on dit aux gens, écoutez, essayez de faire attention, gardez une distance d'un bras, c'est vraiment ça qu'ils ont dit, gardez une distance d'un bras, puis et après ça, on va voir qu'est-ce qui va arriver. Ils ont demandé aux gens, par exemple, aux personnes âgées, restez chez vous autant que possible, si vous avez plus de 70 ans. Ils ont aussi arrêté les visites dans l'équivalent des CH de nos CHSLD. Ça a pas super bien marché, la protection non plus là-bas, puisqu'ils ont une large proportion de décès. Environ la moitié des décès, nous autres, c'est plus grave, là, c'est les deux tiers en proportion. Il faut noter aussi qu'en Suède, il y a plus de gens qui de 65 ans et plus qui restent dans l'équivalent de nos CHSLD. Bref, tout ça pour dire que le portrait global, c'est ils ont été beaucoup moins stricts dans les mesures de confinement et de distanciation. Puis on se ramasse avec un bilan semblable aujourd'hui.
C'est ça. C'est qu'on a l'impression que c'est comme si deux patients ont un mal de tête. Il y en a un qui prend une aspirine et qui en prend à toutes les 4 heures, puis l'autre prend rien. Puis au bout d'une semaine, les deux ont le même résultat. Donc on se dit, pourquoi je me suis badré de prendre des aspirines? Il faut dire que le remède que nous, on s'est imposé au Québec a eu des conséquences économiques bien plus graves que juste de prendre des aspirines, là. Donc est-ce que la conclusion qu'on devrait en tirer, théoriquement, vu que vous êtes analyste de politique publique, est-ce que c'est que le remède au Québec a été trop fort par rapport aux gains éventuels qu'on aurait pu faire?
Moi, je trouve qu'il a été mal placé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans une situation de crise, il faut que tu agisses de façon rapide et de façon décisive. Et vous, évidemment, il faut que tu t'organises aussi pour que les mesures que tu mets en place fonctionnent. C'est-à-dire qu'au Québec, on a relativement tôt, on a demandé que le mouvement de personnel entre les CHSLD cesse, mais c'est resté un souhait.
Ben oui. Les gens sur le terrain disent que ça se fait pas.
Ben c'est ça. Puis même la semaine passée, vendredi dernier, donc tout récemment, là, y a un député qui a demandé en commission parlementaire à la ministre, savez-vous quand ça va arrêter? Puis elle dit, je ne peux pas vous donner de date précise. Écoutez, la Colombie-Britannique a cessé ça il y a 2 mois.
Mais oui.
Et ensuite, le port du masque, là, il y a bien des endroits dans le monde qui ont réussi à contrôler la transmission sans encourager le port du masque. C'est le cas en Colombie-Britannique, mais ils n'ont jamais eu la situation qu'on a. Puis il y a aussi une proportion de la population qui est d'origine asiatique puis qui l'ont porté d'office quand même. Mais quand vous regardez des pays comme la République tchèque et la Slovaquie, qui, eux, là, très, très rapidement, ils ont dit... on met une barrière, mettez un masque artisanal. C'est pas parfait, mais au moins ça ralentit, puis la preuve empirique, puis on sait que ça arrête les gouttelettes. Si on avait fait ça, là, juste une réduction, pour vous donner une idée, on approche les 50 000 cas au Québec, juste une réduction de 10% là, de la transmission quotidienne, là, si vous voulez, le taux d'intérêt quotidien de la COVID, là, à place d'avoir 50 000 cas, là, on en aurait autour de 20 000. Ça, c'est juste avec une diminution de 10% de la transmission. Puis on sait que le masque peut réduire ça. T'sais, vous avez des pays comme la Corée, mm-hmm. ont quelque chose comme 11 000, 12 000 cas, 250, 300 morts. C'est une population de 51 millions et l'épidémie avait décollé très, très fort là-bas.
Absolument.
Mais il faut que tu arrives avec toute l'artillerie lourde. Donc, si tu agis de façon décisive, tu t'organises pour que ça fonctionne. Le masque, c'est, à mon avis, une erreur. Puis après ça, ben là, c'est là, il y a une espèce d'effet qui a été difficile à arrêter parce que c'est rentré dans les CHSLD, ça s'est propagé aux hôpitaux, le personnel a été contaminé, le personnel est retourné
chez
eux dans les quartiers, a ramené le virus. Et là, et en plus, ce qui, à mon sens, très étonnant, c'est que évidemment, moi, je suis très, très sensible au volet économique, puis on est en train de se faire énormément de tort. Hein. Il y a des pays, justement, en adoptant d'autres mesures un peu plus décisives, ils n'ont pas eu besoin de faire ça. En Corée, les déplacements n'ont pas été
interdits
autant mm-hmm. qu'ici. Mais je suis sensible à ça. Mais on est en train de réouvrir alors que on est un des endroits au monde où on a encore sur une base quotidienne, c'est-à-dire aujourd'hui, hier, avant-hier, on a le plus de nouveaux cas, on a le plus de nouveaux décès, donc des fois deux, trois, quatre fois plus que des pays comme l'Italie puis la France, là, qui ont été très mm-hmm. sévèrement affectés. Mais eux, ils ont le nombre de cas qu'on a par jour, mais pour une population de 60 millions et plus.
Donc, un déconfinement beaucoup trop rapide, théoriquement. Je veux absolument qu'on parle, Patrick, d'une déclaration de François Legault, toute récente, où il a dit, bon, ben là, il y a des gens qui arrêtent pas de comparer le Québec avec d'autres provinces, ou disait qui comparait Montréal avec des grandes villes dans le monde, en disant, ben, il y a d'autres endroits, c'est pire. Vous, vous dites carrément, c'est faux.
Ben c'est pas vrai là. C'est, écoutez, moi c'est le premier qui l'a soulevé, c'est Raphaël Jacob. Moi je regarde plus la situation par pays. Raphaël Jacob, c'est un spécialiste de la politique américaine là, qui est un universitaire, et il a noté quand on regarde les populations de Philadelphie, de Boston et de Chicago notamment.
Oui.
Ben c'est pas vrai. C'est la mortalité à Montréal est pas mal plus élevée. L'autre chose sur les comparaisons. Monsieur Legault, il y a quelques mois, puis là, je comprends, là, c'est pas lui qui fait tout ça. À un moment donné, on lui fournit des lignes. Le premier ministre, il a des mains pleines présentement. Il y a plein de dossiers à voir. Mais on lui avait fait dire aussi à Monsieur Legault, il y a un mois et demi, deux mois, que, regardez, ici, on a juste 4 décès par million. L'Italie, l'Espagne sont rendus à 200. Moi, j'avais soulevé, je disais, c'est très imprudent comme comparaison parce que sont en avant de nous dans l'épidémie.
Ben oui.
Ça va changer. On vient de dépasser 500 décès par million aujourd'hui.
500 décès par million?
504 avec les décès qui sont annoncés aujourd'hui. Donc, les comparaisons sont pas parfaites. Hein? Mm-hmm. C'est sûr qu'il y a des pays qui comptent mieux leurs morts, mais on n'est pas le seul à le faire. La Belgique, l'Allemagne, la Suède, la France comptent 90% et plus de leurs morts. Puis même pour d'autres endroits, là, quand c'est rendu qu'à un moment donné, on a deux fois, trois fois, quatre fois la proportion, là, c'est, l'Ontario, là, ils n'ont pas oublié la moitié de leurs morts. À un moment donné, on a des questions à se poser. C'est dur. C'est pas toute la faute du gouvernement qui est en place parce qu'il y a des choses qu'on néglige depuis des décennies. Mais il faut en prendre acte, puis ça donne rien d'essayer de rosir le portrait. Là, la situation c'est désastreux, là, mais c'est la réalité.
Ouais. Il faut surtout ne pas se péter les bretelles et il faut surtout faire attention. Je suis allée au parc hier et je voyais des groupes de jeunes qui étaient là, qui serraient la main, qui avaient des grandes tables dans le dos. 2 mètres, ne connais pas ça. Il y avait des jeux d'eau, plein d'enfants qui jouaient dans les jeux d'eau. 2 mètres, connais pas ça. Fait que non seulement on n'est pas dans les meilleurs, mais regarde bien ça dans 2 semaines, comment ça va se retrouver dans les hôpitaux, tout ce monde-là.
Moi, je souhaite pas de malheur, là, mais on n'a pas une grosse marge dans le système de santé. Puis, puis tu sais, on a mêlé le monde à dire que ça ne donne rien de porter le masque, là, puis ça, je pense que ça cause un dommage. Puis,
oui.
Je souhaite pas que ça aille mal, mais...
Mais la question du masque, c'est ça. Ben, il y a plein de gens, il y a Anima Macho, enfin, il y a plein de monde qui disent comment se fait-il qu'on ait commencé par dire aux gens que ça servait à rien pour après dire, ah ben non, finalement, on vous le recommande. Je veux dire, c'est pas compliqué, là. C'est certainement plus intelligent de porter un masque que de tousser dans son coude, hein. C'est plus sécuritaire.
En effet, puis ça coûte pas très cher non plus. Puis, je veux dire, une protection imparfaite pour les autres, hein. C'est pas pour soi, le masque, c'est pour les autres. Puis, on n'a pas juste dit que ça servait à rien. On a dit pendant des mois que c'était dangereux, pendant des semaines. Ils ont fait la même chose en Suède, d'ailleurs, aussi. Puis, en tout cas, ça serait trop long à expliquer ici, mais c'est pas basé. C'était vraiment un drôle d'argument qui n'était pas ancré dans la réalité. Puis ça fait beaucoup de tort aujourd'hui. C'est dur de demander aux gens de revenir en arrière. Les gens sont confus, puis ils prennent peut-être moins ça au sérieux. Puis, puisqu'on leur dit, écoutez, c'est parfait, sortez dehors, voyez-vous, ben. On pense que c'est terminé, mais on le souhaite. Tant mieux si ça redescend, puis dans 3 semaines, 1 mois, tout le monde est dehors, puis qu'il n'y a plus rien. Mais il y a quelqu'un qui soulignait qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire des pandémies, c'est jamais arrivé qu'il n'y ait pas eu de deuxième vague.
Ah, mais il y a des gens qui disent le contraire, qui disent que les coronavirus, il n'y a jamais de deuxième vague.
Souhaitons-le.
Bon, en tout cas, bref, on dit la science, puis finalement, la science, parfois, se contredit. Patrick Derry, on va continuer à vous suivre sur les médias sociaux, parce que c'est toujours intéressant d'avoir différents points de vue pour être capable de se faire une tête. Vous êtes analyste en politique publique. Merci beaucoup, Patrick.
Ça fait plaisir. Bonne journée.
Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
On n'est pas obligé d'être d'accord.
Avec Sophie Durocher, la vraie reine des arts et spectacles. Vous écoutez.
On n'est pas obligé d'être d'accord.
Alors, vous avez sûrement vu passer la nouvelle, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui suspend les essais cliniques avec l'hydroxychloroquine pour tenter de combattre la COVID-19. Pourtant, ici même, au Québec, ici même à Montréal, à l'Université McGill, on continue les essais cliniques sur l'efficacité de ce médicament dans le traitement de la COVID. On va essayer de comprendre pourquoi avec Dr. Emily McDonald, elle est chercheuse à l'Université, à l'Institut de recherche du CUSUM et directrice de l'unité d'évaluation des pratiques clinique du CUSUM. Dr. McDonald, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous avez compris à McGill que l'OMS n'a pas compris? Comment ça se fait que vous continuez avec les tests, les essais sur l'hydroxychloroquine alors qu'eux les arrêtent?
Oui. Alors, premièrement, ils ont pris une pause avec leurs études à cause des résultats d'une grande étude observationnelle qui vient de sortir du Lancet. Notre étude continue de recruter, mais nous avons fait la même chose avant l'étude de Lancet. On a pris une pause et puis on a regardé avec notre conseil de surveillance de la sécurité pour voir s'il y avait des problèmes de sécurité.
D'accord. Donc, la pause que vous aviez prise, c'était quoi? Vous aviez des craintes, par exemple, face aux réactions de certains patients qui pourraient éprouver des problèmes cardiaques? Pourquoi vous aviez pris cette pause-là?
Oui, je peux expliquer ça. Alors, il y a quelque chose pour toutes les études randomisées. Il y a un conseil de surveillance de la sécurité des données. C'est un comité indépendant qui examine les données d'une étude randomisée. C'est planifié dans les études randomisées. Les chercheurs de l'étude ne voient pas les données, mais le comité décide si une étude doit être arrêtée ou poursuivie. C'est pour toutes les études randomisées. C'est planifié d'avance. Cette décision de continuer ou arrêter une étude, c'est basé sur des questions liées à la sécurité ou bien à l'efficacité.
D'accord.
Par exemple, l'efficacité peut être que l'étude est statistiquement inutile pour continuer ou que le médicament est si efficace que vous pouvez même arrêter prématurément, ce qui est arrivé avec l'étude de Remdesivir qui est publiée vendredi.
D'accord. Ah oui, le Remdesivir, c'est ça l'étude. Donc, c'est ce qui fait qu'on va de l'avant avec le Remdesivir. Mais revenons à l'hydroxychloroquine, oui. Parce que c'est tellement une question qui est controversée. Oui. Les gens vraiment se déchirent face à l'hydroxychloroquine. Il y a des gens qui disent, ben c'est n'importe quoi, c'est dangereux, c'est toxique, c'est vraiment quelque chose dont on doit se méfier. Mais est-ce que c'est ce que vous avez noté dans vos essais cliniques jusqu'ici? Est-ce qu'il y a vraiment des dangers à utiliser l'hydroxychloroquine?
Oui, je peux parler de mon étude. On a regardé à peu près 1200 patients et nous n'avons pas eu les mêmes résultats. On n'a vu aucune arythmie cardiaque et aucun décès.
Wow!
Mais c'est difficile de faire une comparaison entre les deux études parce que les populations sont très, très différentes.
En quoi sont-elles différentes?
Oui. Nos patients sont tous des patients qui sont dans la communauté. C'est des patients qui ne sont pas hospitalisés. L'autre étude, l'étude de Lancet, par exemple, c'est des patients hospitalisés beaucoup plus malades que les patients qui rentrent dans notre étude.
Mm-hmm.
Nous, on a travaillé avec la Santé Canada pour nous assurer que nous sélectionnions des patients qui présentent un très faible risque d'événement cardiaque. Par exemple, on fait un examen complet des médicaments à toute personne. Et s'il y a un médicament qui interagit avec l'hydroxychloroquine, ils sont exclus de notre étude.
D'accord.
Mais ça, c'est. Les participants sont plus jeunes, en meilleure santé. Il y a beaucoup de différences entre les deux études.
Mais ça, c'est très intéressant parce que la raison pour laquelle l'hydroxychloroquine, est, entre autres, est si controversée, c'est à cause du professeur Didier Raoult dans le sud de la France, à Marseille, qui est à l'Institut hospitalier universitaire et qui, lui, est vraiment le champion de l'hydroxychloroquine. Et lui, ce qu'il dit, c'est justement, il faut qu'elle soit utilisée dès les débuts, dès les premiers symptômes et non pas auprès des gens qui sont très gravement malades. Donc, est-ce que vous êtes en train de faire la preuve finalement que l'hydroxychloroquine, quand on l'administre au tout début sur des patients dont on sait qu'ils n'ont pas de problème cardiaque et dont on sait qu'on prend au tout début, est-ce que l'hydroxychloroquine est efficace pour ne pas développer des problèmes de COVID-19?
Oui, en fait, c'est exactement l'étude qu'on fait. C'est pour des personnes tout au début de leur diagnostic qui sont en bonne santé. On donne le médicament pour essayer de prévenir les complications graves comme la mortalité, comme les hospitalisations. Mais en général, chez des patients qui sont en bonne santé, ces événements sont rares.
Oui.
C'est tout à fait différent des patients qui sont déjà hospitalisés, donc c'est la mortalité est beaucoup plus haute.
D'accord. Donc, à ce stade-ci, ça n'est pas possible de savoir si l'hydroxychloroquine, c'est ça qui fait que vos patients ne meurent pas ou si c'est simplement le fait qu'ils sont jeunes et ils sont en bonne santé. C'est pas possible à ce stade-ci de déterminer que c'est l'hydroxychloroquine qui leur sauve la vie, autrement dit.
Non, pas du tout. Tout ce qu'on sait, c'était avec notre conseil de surveillance de sécurité, ils ont dit qu'on pouvait continuer l'étude. Ça veut dire qu'on n'a pas encore la preuve d'efficacité, mais aussi on n'a pas eu d'événement de sécurité pour dire qu'il faut arrêter.
D'accord. Alors ça, c'est important ce que vous venez de dire, Dr. Manonal, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ah, ben là, on vient de prouver le fait que l'Organisation mondiale de la santé dit on suspend les tests cliniques, le fait qu'il y a eu cette étude dans une prestigieuse publication scientifique. Il y a plein de gens qui disent, ah, ben on vient de faire la preuve que l'hydroxychloroquine, c'est dangereux. C'est beaucoup plus compliqué que ça.
C'est beaucoup plus compliqué. Le nombre de patients dans l'étude de Lancet est très important. Les résultats doivent nous faire réfléchir, c'est sûr. Il est important, en général, de prendre les résultats des études d'observation en temps, mais nous ne pouvons pas ignorer ces résultats. Ce qui est approprié, c'est de prendre une pause, examiner les études randomisées pour voir si nous aussi, on constate un signal de sécurité similaire. Nous devons être très prudents en ce qui concerne l'arrêt des études. De qualité supérieure basée sur les résultats d'études dans la méthodologie et de moindre qualité. Mais il faut regarder pour être sûr que c'est sécuritaire pour continuer.
C'est ça. Mais il y a quelque chose, il y a un phénomène quand même qui est très particulier en ce moment, c'est que plein de journaux, plein de médias prennent la réaction de l'OMS ou prennent l'étude de Lancet en disant l'hydroxychloroquine est dangereuse, ça provoque la mort, ça provoque des arrêts cardiaques, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens dans la population qui associent l'hydroxychloroquine à quelque chose de dangereux. Donc, si vous arrivez et que vous voulez faire des essais cliniques pour administrer ça, j'imagine que vous allez avoir de la difficulté à recruter les gens. On est en train, autrement dit, de diaboliser l'hydroxychloroquine.
Oui, vous avez raison. Il y a un problème majeur lié à la publication de ce type d'études observationnelles lorsqu'il y a des essais contrôlés, randomisés qui sont en cours et qui sont, les résultats sont prévus bientôt.
Oui.
Cela a malheureusement un impact sur, en fait, ça va avoir un impact sur la disponibilité des résultats. Au lieu de fournir des informations en temps réel, elles empêchent le recrutement pour les études qui sont réalisées avec une méthodologie de haute qualité.
Voilà. Donc, c'est quand même un problème. Et j'écoutais hier, il y avait une entrevue très intéressante avec le professeur Raoult, publiée dans les médias français, dans lequel le professeur Raoult disait, écoutez, il y a un problème avec les médias. C'est que dans les médias, il y a très, très peu de journalistes qui connaissent quoi que ce soit à la science. Et donc, ils font des grands titres en disant, ah, l'hydroxychloroquine, c'est dangereux, ou ils disent telle ou telle chose. Mais ces journalistes-là sont incapables de lire une étude et de comprendre ce qui est dit dans l'étude. Est-ce que vous feriez le même reproche aux journalistes en général, Dr. McDonald?
Non, mais je pense qu'il faut avoir les deux côtés de l'histoire. Oui, le WHO en fait une pause, mais il y a aussi une autre étude de 10 000 patients du NHS qui s'appelle Recovery.
Oui,
le aussi
NHS, juste pour dire, parce que les acronymes, des fois, on s'y perd. Le WHO, oui. C'est donc l'Organisation mondiale de la santé. NHS, oui, oui. C'est de National Health...
En Europe.
En Europe, oui. D'accord.
Oui, alors, désolée.
Non, ça va.
Cette étude, l'essai de recovery, ils ont 10 000 patients qui ont été randomisés à l'hydroxychloroquine. Eux aussi, ils ont interrompu le recrutement brièvement, mais ils n'ont pas vu la même chose de l'étude de Lancet du tout. Ils continuent le recrutement.
Huh.
Alors, c'est une deuxième étude de bonne qualité, une très grande étude qui a fait la même chose. Ils n'ont pas vu de signal de sécurité et ils continuent. Et ça se peut que l'autre va continuer aussi. Alors, je pense qu'il faut voir les deux côtés de l'histoire.
D'accord. Mais c'est sûr que quand on regarde les grands titres des 48 ou 72 dernières heures, on a l'impression que le dossier est clos dans le domaine de l'hydroxychloroquine. Ce que vous nous dites, Dr. McDonald, c'est qu'au contraire, le dossier continue puisque les études, vous continuez à en faire. Il y a cette étude donc de la NHS qui continue aussi. Donc, on attend, vous pensez pouvoir nous donner des résultats sur l'efficacité de la chloroquine dans un horizon de combien de temps?
Peut-être il y a une étude que nous avons déjà finie. Alors, la publication va venir, je crois, lundi ou mardi.
D'accord.
C'est une étude de prophylaxie. Et l'autre étude, on est à 500 patients, puis on a besoin de 800. Pour cela, malheureusement, c'est difficile. Je ne sais pas si on va avoir les résultats avant quelques semaines ou bien quelques mois à cause de le recrutement. Mais au moins, au début de la semaine prochaine, on va savoir quelque chose de, concernant l'hydroxychloroquine et la prophylaxie.
OK, la prophylaxie, alors, c'est quand on prend le médicament pour prévenir, pour s'assurer qu'on ne l'a pas, versus le médicament qu'on prend une fois qu'on est atteint de la maladie. Oui. Mais je veux juste bien comprendre, Dr. McDonald, si vous pouvez nous le résumer. Vous êtes en train de dire que là, vous avez 500 patients qui sont dans les essais cliniques de l'hydroxychloroquine. Vous en avez besoin de 800 pour que les rapports soient concluants. Et toute cette controverse qu'il y a ces jours-ci vous empêche, vous met des bâtons dans les roues pour faire du recrutement, ce qui ça pourrait signifier à ce moment-là que ça va prendre plus de temps pour faire les essais cliniques.
Oui.
Mais c'est très triste.
Oui. Oui, mais ça cause un délai pour avoir les résultats d'une méthodologie de plus forte qualité.
Est-ce que vous trouvez ça décevant?
Oui, c'est difficile, mais quand même, je suis d'accord qu'il y a une grande étude observationnelle avec un signal de sécurité. Il faut faire la pause pour regarder les données, pour être sûr que c'est sécuritaire. Je suis complètement d'accord avec une pause pour voir si c'est sécuritaire de continuer. Mais si ça cause un arrêt complet des études, c'est dommage.
C'est dommage. Merci beaucoup, Dr. McDonald. Vous êtes chercheuse à l'Institut de recherche du CUSUM. Merci beaucoup de cette mise au point sur l'hydroxychloroquine.
Merci, au revoir.
On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord.
Cube Radio. François Legault a annoncé hier qu'il voulait recruter 10 000 nouveaux préposés aux bénéficiaires d'ici le mois de septembre. Qu'est-ce que ça représente pour les regroupements privés de résidences pour aînés? On va en parler à Yves Desjardins. Il est président et directeur général du Regroupement québécois des résidences pour aînés. Bonjour, Monsieur Desjardins.
Bonjour, Mme Durocher.
Ce qu'on entend depuis la déclaration de M. Legault, c'est que on va déshabiller Pierre pour habiller Jacques. Mme Blais, ce matin, disait il faut surtout pas déshabiller Pierre pour habiller Ginette. Est-ce que c'est ça qui va se passer? Les gens vont quitter le privé pour aller au public parce que c'est plus payant là-bas?
Ben, il y a de fortes chances, hein, vous en conviendrez. Les salaires sont nettement plus élevés. On ne parle pas toutefois de d'autres conditions de travail, là, mais dans l'ensemble, là, on a des moyennes salariales, nous, autour de 13-14 $ de l'heure, alors que dans ce qui a été annoncé, on parlait de 26 $ de l'heure. Alors, on est très inquiet, effectivement. Beaucoup de nos préposés pourraient quitter les résidences privées pour aînés.
Alors, question simple.
Pour aller joindre le public.
Question simple, M. Desjardins, pourquoi vous ne les payez pas, vous aussi, plus cher? Peut-être pas passer de 14 à 26, mais pourquoi les gens dans votre regroupement ne les augmentent pas à 17, 18, 19, 20 $ de l'heure?
Parce que la capacité de payer est très, très, très limitée. Faut équilibrer les revenus et les dépenses. Ça représenterait des augmentations de loyers pour nos résidents très fortes et beaucoup ne seraient pas en mesure de l'assumer.
Mais donc, vous ne pouvez pas l'assumer à même vos bénéfices?
Beaucoup de résidences, madame, ne font aucun bénéfice actuellement. D'ailleurs, il y a 550 résidences qui ont fermé depuis 5 ans. Beaucoup sont au bord de fermer leurs portes. Il y a eu une illusion là, c'est que les gens pensent qu'il y a beaucoup de profits. Et c'est nous, on a des études externes qui viennent démontrer justement que les profits sont à la baisse, sont même très faibles et inexistants pour la majorité des résidences.
Pour quand vous voyez que le gouvernement a l'intention de faire en 3 mois une formation de préposé aux bénéficiaires qui normalement en prend 7, c'est quoi votre réaction, Monsieur Desjardins?
Ben c'est déjà mieux parce qu'il n'y a pas d'exigence de formation pour travailler dans le réseau public. Ça, c'est clair, là. Seules les résidences pour aînés font l'objet d'une exigence de formation pour les préposés. Alors, c'est bien, c'est court, on verra. Mais nous, on a toujours pensé que la formation était correspondait à de meilleurs services, une compétence plus élevée. Alors, au minimum 3 mois, c'est pas beaucoup. Mais avant, il y avait aucune formation d'exiger, donc c'est beaucoup mieux.
Oui. Une des choses que le gouvernement promet, bon, c'est évidemment pas juste des salaires, c'est que ce sont des emplois qui sont permanents, avec un fonds de pension et tout ce qui vient avec. Ça, est-ce que vous pouvez accoter ça? Si au moins vous ne donnez pas des meilleurs salaires, est-ce que vous pouvez au moins donner des meilleures conditions de travail?
Vous savez, il y a une partie de résidences là, qui ont des conventions collectives. Beaucoup de résidences ne sont pas syndiquées. Chaque propriétaire est en mesure d'offrir des conditions particulières selon sa réalité, selon le nombre de résidents, sa situation géographique également. Mais c'est clair, là, on ne peut pas rivaliser avec le public. Actuellement, là, au niveau salaire, ça représenterait des augmentations de 60%.
60%. Bon, c'est la première fois que j'entends ce chiffre-là. Monsieur Desjardins, je vous remercie. Bonne chance pour la suite des choses. Yves Desjardins est président et directeur général du regroupement québécois des résidences pour aînés. Merci beaucoup, puis on se retrouve demain à midi.
Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit.
Et maintenant, autrement écouté.